bande de trolls, diaboliques, sans aucun respect ni aucune considération.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue pour ce nouvel épisode de Serial Causeur. Je suis Adrien, votre hôte habituel, et j'ai aujourd'hui avec moi une belle bande d'Avengers, ou une Justice League, selon votre goût, hein. Loon de LR Media, Laetitia de LR Media, et Alan de Cinewatch.
Salut. Ton lancement, tu l'as préparé depuis combien de temps?
Des années.
Non, mais ça se sent.
Aujourd'hui, donc vous l'aurez compris, on s'aide à la mode pour parler de super-héros. Alors, ils envahissent le grand et le petit écran depuis bien plus d'une dizaine d'années. Il y en a que ça commence à saouler, on les comprend. Et il est temps, notamment avec la quasi-mort de l'univers super-héroïque de Netflix, de faire un petit bilan. Alors, on fera ça en trois questions. D'abord, on se posera la question de savoir si la série super-héroïque est un genre en elle-même. Ensuite, savoir si le manque de budget comparé au cinéma n'est pas finalement toujours un problème quand on parle de séries de super-héros. Et enfin, est-ce que les meilleures séries super-héroïques ne sont pas, si on en croit certaines critiques, celles sans super-héros? Alors, je vous propose de commencer donc par la première question. Est-ce que la série super-héroïque est un genre avec ses codes? Prenons un modèle. Supergirl est une héroïne descendue sur Terre qui va devoir apprendre à contrôler ses pouvoirs, battre des méchants et sauver sa vie affective. Comme Arrow, Flash et tous les héros du Arrowverse. Mais pour autant, avec l'arrivée de séries comme Doom Patrol, un peu atypique, est-ce qu'on peut vraiment dire que la série super-héroïque est un genre, avec ses codes et avec un format?
Eh bien écoute, c'est un débat qu'on a déjà eu il n'y a pas si longtemps que ça, il me semble, sur les séries médicales. On en parlait notamment avec Iris, où on se demandait est-ce que médical c'est un genre de série? Pour moi, c'est un petit peu la même chose pour les séries super-héroïques, donc je vais redire plus ou moins la même chose. Oui, c'est un genre à part entière. Certes, ça rentre dans tout ce qui est science-fiction, mais c'est comme ça qu'on va les décrire, c'est comme ça qu'elles sont identifiées. Et même si elles n'ont pas toutes forcément les mêmes codes, puisque ça dépend aussi beaucoup des chaînes, beaucoup des sujets et beaucoup des personnages, ça reste des séries dont les personnages principaux sont des super-héros. Donc pour moi, des séries super-héroïques, un genre vraiment entier.
D'accord. Et tu penses qu'on peut identifier certains tropes ou certaines thématiques qui reviennent systématiquement?
Je suis d'accord avec Laetitia, c'est forcément un genre. Et effectivement, c'est codé parce que les codes, tu les repères à des kilomètres. Puisque, en fait, la grosse différence, c'est que c'est des séries super-héros. Donc, c'est tiré de format papier. Donc, tu as des attentes. C'est-à-dire que tu as forcément, à un moment donné, même chez les séries Netflix qui avaient tendance à occulter un peu ces attentes, ou en tout cas les mettre d'une autre manière, t'as des attentes forcées, t'as le costume, t'as les méchants, t'as le name dropping, enfin t'as des passages obligés que tu ne peux pas du tout occulter quand tu adaptes une série super héroïque, et c'est là-dessus qu'on les reconnaît. Même si tu changes prenons Luke Cage qui avait à un moment donné en tout cas pour la saison 1 pas le costume, en tout cas les vêtements qu'on lui connaît. Il y a quand même un passage en flashback où il avait son costume, on va dire, ils avaient réussi à insérer son vieux costume. Jessica Jones, à un moment donné, il fait référence. Enfin, t'es obligé d'avoir des codes puisque là, contrairement, parce que comme toute série médicale et compagnie, tu as un cahier des charges. C'est un cahier des charges qui est encore d'autant plus grand que là où une série médicale, tu vas avoir des attentes par rapport à une autre série médicale ou par rapport tout simplement au domaine. Pour une série de super-héros, même pour un film d'ailleurs, tu as forcément des attentes puisque tu as des fans derrière qui connaissent le comics et tu peux pas faire totalement quelque chose de totalement contraire puisque déjà c'est ce qui t'inspire. Là où les scénaristes trouvent leur inspiration, mine de rien, malheureusement pas suffisamment selon certains angles, c'est dans les pages des comics, donc tu es obligé de retrouver ça. Hein.
D'accord. Et ces structures ou un peu ces codes qui reviennent, est-ce que finalement c'est plutôt quelque chose qui est problématique parce que ça paraît contraignant? Ou est-ce que c'est au contraire quelque chose qui permet aux spectateurs de se maintenir une certaine zone de confort et donc de mieux apprécier la série?
Là, pour moi, ça dépend tout simplement, ça dépend des chaînes. Parce que tu peux pas... pour moi, il y a quand même un espace de liberté dans le sens que même dans les comics, encore une fois, les personnages se sont multiples fois réinventés. Spider-Man, la preuve, il n'y a plus qu'un seul Spider-Man. Dans les comics, il y a comme toujours une réinvention. Avec forcément, voilà, encore une fois, certains trucs que t'es obligé de garder. Mais c'est au créateur derrière, enfin au scénariste, d'apporter sa patte dans le truc. Et ça se voit dans les séries comics, enfin dans les séries super-héros, comme tu disais tout à l'heure. Hein, Doom Patrol n'est pas un Arrow, un Arrow n'est pas un Luke Cage n'est pas un Titan. Enfin, c'est chaque on va dire chaque chaîne a son en
D'accord,
fait
c'est ouais, c'est la question que j'allais poser. C'est donc plus, ce serait donc plutôt une question de, enfin, quand on retrouve les codes, ce serait plutôt une question de chaîne plutôt qu'une question véritablement de médias super-héroïques. C'est
c'est
ce
une
qui expliquerait qu'on
question
est, ouais, Laetitia, vas-y.
c'est une question de chaîne forcément. Il suffit de regarder un petit peu les séries de tout ce qui est de l'Arrowverse.
Ouais,
Ça se
si, oui.
présente sur le même format, les introductions sont quasiment les mêmes, ils ont changé, allez, trois mots histoire que ça corresponde à chacun. Le fait qu'ils fassent leur crossover font que ça se rencontre, donc font qu'ils restent aussi dans un univers très fermé. Et on retrouve un petit peu les mêmes traits sur toutes les séries super-héroïques liées les unes aux autres sur différentes chaînes.
D'accord, en fait c'est une question d'univers, c'est-à-dire que c'est parce qu'elles
Voilà.
appartiennent par leur chaîne au même univers qu'on va les retrouver. Et c'est ce qui explique que dans des séries comme Légion ou Doom Patrol dont on pourra parler plus tard, il y a une telle différence avec les séries du Arrowverse alors qu'en fait elles sont adaptées d'un même type de média.
Mais comme parce que là tu cites beaucoup Doom Patrol parce que c'est d'actualité, mais on n'a pas attendu genre les séries Netflix, même si bon maintenant elles ont été annulées, quoique encore elles pourraient encore ressortir sur Disney+. Mais on faut voilà, on a très bien vu que les séries Marvel Netflix c'est pas du tout comme le Arrowverse. Enfin,
Oui, il y a une
c'est
vraie
en
différence, c'est
fait
vrai.
il y a un cahier des charges de base qui tient au genre, mais après chaque chaîne réinvente à sa sauce. Sans réinventer évidemment, voilà, encore sans sortir du cahier des charges. Mais chacun essaye de sortir un peu du lot. Légion l'a très bien fait. Pour moi, Légion est peut-être celle qui est sortie le plus du lot de tout ce qui a été fait. Mais voilà, en fait, c'est le juste milieu entre on te fait un truc finalement, on te fait ce que tu attends, mais en même temps, faut se différencier du voisin, quoi. Ça me fait penser à ça. C'est que là aussi où les chaînes font des erreurs, c'est que tu as des chaînes qui du coup, comme on le disait pour la reverse. Comme disait Laetitia, bah voilà, ils changent juste deux trois trucs, mais pour coller à tous les super-héros. Et Netflix, a pareil, collé à tous les super-héros, a fait le même format pour tous ces quatre super-héros. Mais si ça coule et si pour moi les audiences diminuent quand même de plus en plus, que ce soit d'ailleurs chez CW ou chez Netflix, tout simplement parce que justement là où ils se sont tous trompés, c'est chaque super-héros est différent.
Oui,
Et c'est là
absolument,
aussi
ouais.
le gros souci, et c'est pour ça que Légion a aussi à sortir du lot, comme Doom Patrol a sorti du lot, ou même Umbrella Academy. C'est pour ça que d'ailleurs de plus en plus ils vont dans le comics indé, parce que le comics indé a peut-être un peu plus de liberté parce que ça ne fait pas partie d'un univers. Mais c'est tout simplement c'est que ils ont appliqué un Iron Fist, enfin ils ont appliqué un truc à la Daredevil à l'Iron Fist alors que la personnalité est pas du tout pareille. Ils ont
Ouais.
appliqué un truc à Flash à enfin ils ont à un truc de Flash à Arrow qui est pas du tout la même chose. Enfin, c'est là où ils se foirent en fait pour moi dans leur multiplication de séries, c'est qu'en fait ils ont un format qui marche et qui veulent recopier, sauf que l'identité du personnage n'est pas du tout la même.
Oui, et puis même sur les questions de ce qui coule, il y a une problématique aussi d'univers, c'est-à-dire que moi j'ai eu le sentiment à la fois au cinéma, mais aussi et surtout en série et principalement chez Netflix, t'as le sentiment que quand une série coule ou en tout cas fonctionne pas, t'as l'impression que toutes les autres vont suivre en fait. Pour moi, le cas Marvel Netflix, c'est assez spectaculaire à ce niveau-là. Ça part du ratage qui était
Mais parce que c'est
Iron Fist,
exactement le même.
voilà,
Mais
c'est
parce
ça,
que
pour ensuite passer à
c'est des
Defenders et tout le
copier-coller.
reste.
Parce que c'est des copier-coller, tout simplement. Enfin,
C'est un petit peu le problème des séries de super-héros en ce moment, c'est qu'à partir du moment où ils ont un format qui marche sur une chaîne, ils vont essayer de répliquer et répliquer et répliquer encore la même chose.
tout à
Parfois,
fait.
ça peut donner des bonnes choses, puisqu'au final, je pense qu'aujourd'hui, par exemple, pour reprendre le cas du Arrowverse, des séries comme Flash, Supergirl, mais surtout Legends of Tomorrow sont bien supérieures à Arrow,
Ce qui est
qui n'a
très étonnant parce
plus
qu'Arrow était venu avant quelque
et
part.
qui voilà, c'est venu
Ouais.
avant, mais c'est parti dans tous les sens, ça n'a plus aucun intérêt, les personnages sont devenus chiants, les intrigues sont pas intéressantes.
Après, c'est peut-être parce qu'il y a peut-être un peu plus de saisons. Qui sait que dans 3 saisons, peut-être que Flash. Enfin, pour moi, Flash était devenu intéressant avant. Mais après, pour moi, DC,
Flash,
enfin,
c'est
DC, Legends
pareil.
of Tomorrow.
Flash, c'est plus intéressant depuis 2 saisons. Là, j'ai été vachement déçue de la dernière saison de Supergirl aussi. La seule qui reste pour moi en ce moment au-dessus du lot, c'est Legends of Tomorrow parce qu'ils ont compris que cet univers complètement barré,
Ils assument totalement
ils
leur
l'assument
délire.
totalement. C'est un délire, ça part dans tous les sens. T'as des licornes, une bonne fée. À chaque épisode, tu te demandes ce qu'ils ont pu prendre comme drogue pour
Mais
se dire
après,
tiens, on va faire ça va marcher. Et au final, on voit que l'Arrowverse s'est un petit peu dissocié du truc, puisqu'ils ont fait leur crossover sans Legends of Tomorrow.
Ouais, absolument.
Et c'est dommage. C'est dommage parce que au final, le crossover, il était nul cette année.
Très bien. Juste une petite question sur ce sujet. Du coup, je me posais la question de savoir, en admettant qu'on retrouve un pattern ou en tout cas des éléments un peu similaires à toutes les séries, quelle que soit la chaîne, comme on a pu parfois en dégager, notamment les costumes, ce genre de choses, mais on y reviendra, qu'est-ce qui ferait qu'on ait un genre super-héroïque comparé par exemple au genre du policier ou au genre du fantastique? Est-ce que la série de super-héros, c'est pas finalement un espèce de pot-pourri, sans du tout être pessimiste ou négatif, un espèce de pot-pourri de plusieurs éléments de genre codé comme le fantastique ou le policier par exemple, au lieu d'être un genre à part entière avec ses propres codes et ses propres thématiques.
À ce moment-là, pour moi, c'est tous les genres, tu peux les faire comme ça. Est-ce qu'une série policière n'est pas finalement une série médicale dans un autre univers?
Oui, mais probablement, c'est pour ça que je pose la question. Oui.
Tous les genres, mine de rien, prennent chez le voisin. Enfin, t'as des points communs partout. Après, voilà, la série de super-héros a totalement ses propres codes, et on l'a bien vu, mine de rien, chaque série de super-héros peut être plus ou moins comique, plus ou moins dramatique, plus ou moins policière, même, pourquoi pas. Mais elle a quand même des spécificités qui la dégagent des deux autres. Elle a autant de points communs et de points de divergence que la série policière, la série médicale, pour moi, enfin, à mon avis.
Et justement, ça serait quoi, du coup, ces spécificités? Le costume,
Le costume, ouais. L'ambivalence avec le méchant, le côté un petit peu préserver l'identité secrète.
Ouais, la dualité, ça serait...
Voilà, la dualité, il y a plein de codes, mais après, c'est pareil, dans une série médicale, c'est quoi les codes? Ça se passe dans un hôpital, ok, enfin voilà, c'est pas parce que... Il y a forcément une structure de base,
oui,
mais ça ne veut pas dire que les mêmes codes se répètent tout le temps en permanence.
Non, mais c'est ça. Ça a autant de la série super-héroïque a autant de codes que tout autre genre. C'est voilà, t'as des comme quoi, t'as un cahier des charges. C'est voilà, chaque genre a un cahier des charges.
Ok, très bien. On va pouvoir passer à la deuxième question qui est consacrée à quelque chose d'un peu plus terre à terre, d'un peu plus financier même, la question du manque de budget, parce qu'on voit bien, et surtout ça c'est surtout le cas je pense, mais vous me direz si je me trompe, des séries CW comme toutes les séries du Arrowverse, on a parfois le sentiment que c'est toujours quand même des séries un peu fauchées, et je me posais la question de savoir si finalement c'était pas toujours un problème des séries super-héros en général, et si les meilleures séries de super-héros pouvait pas être finalement celle qui arrive à se détacher de ça et à proposer autre chose. Je pense notamment aux séries comme les séries Netflix, Daredevil, ce genre de choses, qui arrivent avec une certaine subtilité de mise en scène et une parcimonie du spectaculaire à pallier à ce problème du manque de budget. Je sais pas ce que vous en pensez, Alan par exemple.
Tu compares l'incomparable. C'est-à-dire, tu peux pas comparer Supergirl par exemple qui a besoin d'énormément d'effets spéciaux par rapport au pouvoir de la super-héroïne à Daredevil qui est justement lui qui n'a pas de super-pouvoir. Donc tu vois bien qu'il y a un écart d'effets spéciaux entre Arrow et Flash, mais c'est normal.
Oui, bien sûr.
T'as un personnage qui n'a pas de super-pouvoir contre un autre où t'es obligé de montrer ses super-pouvoirs. Donc forcément, t'as déjà entre les séries et entre les héros, t'as forcément un décalage de besoins. Enfin, t'as pas les mêmes besoins d'effets spéciaux. Après, le manque de budget, bon, bah, ça, malheureusement, il est malheureusement effectivement criant. Mais là, c'est plus problématique. C'est vrai que c'est même pas dans les séries CW qui, effectivement, le font à la chaîne. Donc, t'as un côté un peu fait maison qui, de temps en temps, peut faire rigoler. Que des séries comme récemment, bah, Umbrella Academy, justement, qui Umbrella Academy, arrivait à faire le très très bon, puisqu'on a un personnage de singe en 3D qui est quand même très bien fait. Et derrière, on a un costume de Luther, donc le numéro 1, qui est totalement ridicule. Et ouais. Là, t'as un écart d'effets spéciaux dans la même série, qui est assez bizarre en fait en soi. Mais après voilà, les séries CW, bon bah c'est pas sur les effets spéciaux de toute façon qu'ils misent. Et encore, je trouve que Flash, mine de rien, c'est un peu amélioré avec le temps.
Oui, comme Supergirl. Hein. C'est pas du tout.
Tout comme Supergirl. Oui. Après voilà, c'est aussi des trucs de mise en scène,
pour moi la problématique c'était surtout, mais c'était très pertinent, hein, c'est un peu là où je voulais en venir quand tu as dit qu'effectivement les Netflix, ce genre de choses n'étaient pas comparables, et justement je me posais la question de savoir au-delà de ça si Par exemple, bon, Laetitia, par exemple, tu pourras répondre après si tu veux pour pas qu'on monopolise la parole. Effectivement, Daredevil semble faite pour un tel média, par exemple, puisqu'il n'y a pas effectivement une demande ahurissante d'effets spéciaux. Mais d'un autre côté, est-ce que ça devient pertinent? Est-ce que c'est vraiment pertinent d'adapter Flash ou Supergirl à la télévision alors qu'on sait qu'à un moment, il y aura forcément cette espèce de manque de moyens qui va s'enclencher? Je sais pas ce que t'en penses, Laetitia.
Mais bien sûr que c'est pertinent. Pour moi, c'est pas du tout une question d'un manque de moyens. Limite, j'ai envie de dire que dans certains cas, on le sait que les effets spéciaux, ils vont être complètement pétés. Et on s'en fout un petit peu, en fait. Parce que c'est pas forcément ça qui fait une bonne série. Autant quand tu vas aller au cinéma, tu vas avoir envie d'avoir un truc grandiose parce que forcément, c'est sur grand écran. Maintenant, les séries, on les regarde sur nos ordinateurs, on les regarde de plus en plus sur des tablettes ou sur des smartphones, où la qualité est forcément inférieure et où du coup on a moins besoin d'avoir tous ces effets spéciaux. Et puis surtout, le fait de ne pas vouloir adapter un super-héros sur le petit écran sous prétexte que les effets spéciaux ne seront pas forcément à la hauteur des attentes, ça veut aussi se dire en priver tout un public. Est-ce que Supergirl aurait vraiment eu le même succès sur grand écran? Je suis pas sûre.
Oui, on peut se poser
Arrow,
la question.
Flash, franchement, moi, j'y crois pas plus que ça pour l'instant. Et j'ai presque envie de dire que ce serait snob de se dire que les super-héros ne méritent d'être adaptés que sur grand écran.
Là où je suis d'accord avec Laetitia, c'est que déjà d'une, on regarde pas une série pour les effets spéciaux. Le plus gros travail à faire sur une série super-héroïque, c'est justement sur l'écriture, que ce soit des personnages ou du scénario. On parle des séries super-héroïques, mais je suis désolé, mais je trouvais à l'époque, bon, ça peut être peut-être un poil mal vieilli au niveau effets spéciaux, mais à l'époque, moi de mon âge, si on regardait Hercule, si on regardait Xena et compagnie, qui faisaient déjà appel à des effets spéciaux totalement cheap, mais ça n'empêchait pas que c'était génial. Mais pas
oui,
parce que c'était pas une question d'effets spéciaux. On s'en branlait. Le Flash, justement, on parle de Flash. Flash a déjà eu une série dans les années 90. Cette série était loin d'être dégueu. Et pourtant, ouais, les effets spéciaux, on s'en branlait encore une fois.
Oui,
enfin,
bien sûr. Pour moi, c'est moins une question de qualité intrinsèque de la série qu'une question de encore une fois, de genre. Parce que, est-ce que, mais vraiment, c'est une question que je pose, hein, j'affirme rien du tout. Est-ce que le spectaculaire est quand même pas un élément important quand on en vient à parler de séries super-héroïques? Est-ce que, du coup, le passage par la télévision et par, notamment, pour la CW, ces espèces de petits problèmes, moins sur les questions de qualité, j'ai quand même parfois le sentiment que ça retirerait quelque chose, que ça retire quelque chose au genre super-héroïque en lui-même. Mais voilà, c'est à vous de me dire après ce que vous en pensez. Et évidemment, ça ne permet pas de préjuger de la qualité de la série, qui est évidemment, mais surtout de l'écriture et du jeu d'acteur, ça c'est des choses qu'on sait. Mais est-ce que le spectaculaire est quand même pas important quand on parle de super-héros?
Pas forcément.
Les séries Netflix sont marchées sans spectaculaire.
Voilà, quand tu vois Jessica Jones ou Daredevil, ils n'ont pas besoin d'effets spéciaux pour que ce soit spectaculaire.
Mais ça, comme disait Alan, c'est parce que ça fait... c'est des séries particulières qui ne nécessitent pas, par leurs personnages en eux-mêmes, qui sont des personnages humains...
Non, c'est l'écriture, ouais. L'écriture. C'est le terme spectaculaire, au final, c'est quoi? C'est que ça te fout le petit... Enfin, t'attends pas de spectaculaire, t'attends que ça te fout le petit frisson. Regarde, pourquoi Batman reste un des héros les préférés alors que le mec n'a pas de super pouvoir? Il y a
ouais,
quelque chose de spectaculaire dans Batman.
Ouais. Donc si demain, par exemple, admettons qu'on ait une série focalisée sur, je dirais, sur Superman, par exemple, on pourrait passer par la case de la subtilité et éviter le spectaculaire qui, de toute façon, pourra paraître un peu désuet, sans nier un peu ce qui fait l'intérêt et la capacité des personnages de Superman qui passe aussi par sa toute puissance. On pourrait faire ça, ça pourrait être bien, vous pensez?
Pourquoi tu voudrais séparer les deux? Fais ça, je comprends. Pourquoi tu veux faire une série Superman sans le côté spectaculaire? C'est ce que disait Laetitia et ce qu'on disait aussi, c'est que Daredevil n'en avait pas besoin parce que c'était pas un personnage qui nécessitait.
Oui, absolument.
Mais ça ne t'empêchera pas de travailler. Encore une fois, non, l'essentiel, mais ça c'est de n'importe quelle série ou n'importe quel film. L'essentiel, c'est l'écriture.
D'accord,
du personnage et quel que soit le héros. Si t'as une bonne écriture derrière, je suis désolé, ça fait tout, enfin, clairement.
Donc, le manque de moyens, même si parfois ça peut être préjudiciable au niveau de la qualité visuelle de la série, si j'entends bien ce que vous me dites, n'est pas forcément un problème gravissime, quoi. C'est pas quelque chose qui va définir la série, quoi. C'est pas l'important.
C'est pas le problème majeur de la série.
c'est pas le problème majeur et ça peut même être, ça peut même donner un petit côté. Enfin, je sais pas comment dire, mais
Un
pour
peu
moi, les
kitsch.
séries de super-héros, voilà, le kitsch elle fait un peu partie du truc.
Oui, c'est vrai que Supergirl, moi je trouvais ça assez marrant, le dernier crossover qu'ils ont fait avec ces espèces d'aliens chelous, là, je sais plus si c'était le dernier ou l'avant-dernier, j'avais trouvé ça assez marrant, ces espèces de machins, on voyait bien que ça pouvait être tiré d'une cinématique, bon, PS2, je suis méchant, mais disons début PS3, et en fait, ça me gênait pas tant que ça, je me suis rendu compte que ce que j'aurais pas supporté de voir au cinéma, par exemple, ne me gênait pas tant que ça quand on me parlait de séries télévisées, parce que, effectivement, c'est peut-être pas ça qu'on attend en priorité d'une série télévisée, même consacrée aux super-héros.
Encore une fois, faut que ce soit en fait, faut que ce soit, per faut que ce soit, faut que ce soit cohérent. Si t'as des effets spéciaux cheap mais que le reste suit, bah tu sais que ça fait partie de l'ADN de la série. Pourquoi pas? Encore une fois, moi ça me gêne beaucoup plus dans une série comme Umbrella Academy où là t'as des écarts d'effets spéciaux que tu ne comprends pas.
Oui, absolument. Du moment que c'est cohérent, c'est plus acceptable, du coup.
Voilà, c'est ça, c'est
Ouais.
une certaine cohérence avec le
Ah, c'est
truc.
intéressant.
C'est pas le problème.
D'accord, très bien. Bon, alors, au-delà de la question de savoir est-ce qu'il existe un genre super-héroïque, est-ce que le manque de moyens est un problème, on peut se poser une question plus générale qui est, j'ai été voir les critiques un peu récemment pour voir les séries de super-héros les mieux notées et je me suis rendu compte de quelque chose. J'ai eu le sentiment, et vous allez me dire par exemple, Laetitia, si tu es d'accord et si vous êtes d'accord avec ça, que les meilleures séries super-héroïques, en tout cas les mieux notées, sont parfois, notamment Légion par exemple, ou Agents of Shield, celles qui sont sans super-héros à proprement parler. Tandis que des séries avec des vrais super-héros, entre guillemets, mais encore une fois c'est peut-être un peu caricatural de dire ça, comme Supergirl ou Flash, sont des séries certes très appréciées du public, mais peut-être d'un point de vue de la critique sériephile, moins bien notées. Je me demandais ce que tu en pensais, Laetitia par exemple.
Je pense que beaucoup de critiques sont parfois un peu snobs.
Ouais.
Parce que voilà, enfin, moi personnellement, je me base pas forcément sur l'avis des critiques pour regarder quelque chose, ce qui n'est pas forcément très intelligent de ma part
Oui,
vu que je
bien sûr. Non,
suis
non, oui, bien sûr,
aussi
ouais.
critique.
Oui, tu as raison.
Mais je pense que c'est pas parce que les critiques sont mauvaises que ça veut dire que la série est mauvaise. À
Oui,
partir du
bien
moment
sûr, oui.
où elle plaît au public et où les audiences sont là, c'est que la série, elle fait son job et que du coup, elle vaut le coup d'œil au moins pour se faire sa propre idée.
D'accord. Et sur le fond, du coup, de ton point de vue, en enlevant l'idée des critiques, qui était surtout pour moi un moyen d'entrer dans le sujet, est-ce que les meilleures séries super-héroïques, par exemple, de ton point de vue, bon, je te demande pas de me donner un top 3, hein, mais de ton point de vue, sont celles qui sont assez classiquement, je dirais, consacrées à un super-héros avec des pouvoirs en tant que tel et sa double identité, ou les séries qui peuvent aller autre part, plus loin, comme je pense par exemple notamment à, bah, je l'ai déjà cité, mais Legion ou Doom Patrol. Pour toi, qu'est-ce qui, en quelque sorte, fait la meilleure série super-héroïque? Est-ce que c'est celle qui sort du cadre ou celle qui sait utiliser le cadre intelligemment, quitte à y rester?
Je pense que c'est difficile de, enfin, c'est difficile pour moi de répondre à cette question parce qu'en fait, ça va dépendre aussi beaucoup de la façon dont c'est fait, puisque pour moi, c'est presque deux entités à part entière
D'accord,
qui
c'est
sont pas
quasiment deux genres
nécessairement
différents,
comparables.
ouais.
Pour moi, je peux pas comparer un Jessica Jones à un Legion.
Ouais, absolument, je suis d'accord. D'accord,
Donc,
donc,
du coup, c'est
ouais.
difficile de dire que un genre est meilleur que l'autre. Parce qu'on sait pas en fait, enfin, c'est pas la même chose, tout simplement.
D'accord, donc une série qui pourrait être, par exemple, plus inventive du point de vue de la mise en scène, ou plus surprenante, ou se détachant des codes du point de vue de l'écriture, sera pas nécessairement, et je peux être tout à fait d'accord avec ça d'ailleurs, meilleure qu'une série, j'allais dire, de facture beaucoup plus classique d'un point de vue super-héroïque, comme on les a déjà évoqués, Supergirl et ce genre de choses. C'est pas tellement dans cette distinction-là entre originalité et recherche ou classique que la question de la qualité va se poser.
C'est ça.
D'accord. T'es d'accord avec ça, Alan?
Oui, tout à fait. Puis après, de toute façon, enfin, c'est encore une fois, c'est pour moi ce qui est le plus important. Ça, je suis désolé, je bloque dessus, mais c'est l'écriture. Je suis
Oui.
désolé, mais non, non, mais au-delà de, déjà, moi, je pense que les séries super-héroïques ont énormément de problèmes, même les bonnes, hein, parce que même les bonnes, finalement, tu te rends compte que souvent en saison 2, bah, ça foire un peu parce que c'est là où les chaînes font des erreurs et c'est là où tu vois que c'est quand même pas des pros de ce qu'ils adaptent quand ils adaptent. C'est que en fait ils se basent trop sur justement le super pouvoir et ce que les fans connaissent. Regarde Supergirl, ce qui était abominable dans la saison 1, c'est que les mecs te faisaient des références à Superman toutes les 36
Oui,
secondes
c'était assez
sans le
bourrin dans les
voir.
premiers épisodes,
C'était
absolument, ouais.
ridicule. Gotham est ridicule, parce que Gotham use tous les méchants de Batman sans Batman, enfin ouais. C'est...
Qui a toujours existé que comme ça d'ailleurs, Gotham, ça
c'est non, mais problème. C'est... Ouais. Ouais, non, mais voilà, il y a plein de soucis dans la série super-héroïque, et encore une fois, le problème c'est l'écriture. Pourquoi? Alors que pourtant, et moi je vais te... la meilleure série super-héroïque, tu sais laquelle? Elle dure que 20 minutes, c'était Batman The Animated Series des années 90.
Oui,
c'est non, mais honnêtement, non, mais clairement c'est de l'animé. Mais pourtant, quand tu vois l'animé, même le graphisme,
les gadgets, d'animation,
non, mais les gadgets qu'utilise Batman, c'était hyper cheap. Mais qu'est-ce que t'aimais dans ce Batman-là? C'était l'écriture.
Oui,
l'écriture
par
était
ouais.
et ça durait que 20 minutes. Mais chaque épisode te mettait une claque parce que c'était bien écrit. Le personnage était bien écrit, le méchant était bien écrit. Le problème de toutes les séries, tout, et là pour le coup c'est global. Toutes les séries, déjà d'une que ce soit Netflix ou que ce soit Arrow. Un super héros, pour moi, une série super héroïque, le problème de le faire en fil rouge pendant toute la saison, t'as vachement de rallonge, c'est hyper lent. C'est hyper lent parce que du coup, au bout d'un moment, bah, le héros, il a des problèmes, ouais, mais pour le héros, il a des problèmes pendant 12 épisodes et il a les mêmes problèmes pendant 12 épisodes, c'est galère. Alors que, pour le coup, je trouve que, quand c'est beaucoup plus feuilletonnant, comme l'était Arrow au début, comme peut l'être, comme l'était Agent Shield. Bon, Agent Shield, c'est l'inverse.
Oui, Doom Patrol, qui est très peu étonnante aussi.
Voilà, mais du coup, ouais. Ça te permet d'aborder à chaque fois une histoire un peu différente, tout en rajoutant quelque chose à des personnages. Et mine de rien, tu retrouves un petit peu ce côté, comics du, j'ai mon magazine une fois par semaine, c'est une histoire précise, et dans une semaine, j'aurai une autre histoire. C'est, et puis t'as ça, et t'as le côté surtout, le méchant. Le problème, c'est que ce qui est bien qui me fait une série de super-héros, là voilà, c'est la grosse, comme tu dis tout à l'heure, on parlait de genre, qu'est-ce qu'il y a dans le cahier des charges du film de truc de super-héros, c'est le méchant. Ouais. Le méchant est primordial dans une série de super-héros. Et le souci, c'est que toutes les séries, que ce soit Daredevil chez Netflix, que ce soit chez Le Arrow, tout ce que tu veux, c'est que dès le début, pour plaire au public, ils ont visé trop haut. C'est-à-dire que, évidemment, en fait, c'est le problème, c'est quand t'as visé trop haut, après, tu peux que redescendre. Pourquoi les gens pensent qu'après la saison 2, voire 3, Arrow est descendu? Mais c'est parce que dès la saison 2, il te foutait Deathstroke, qui était un très très bon méchant.
Méchant essentiel, en plus, dans les
méchants essentiels. Et derrière, ils sont allés plus bas. Flash est pareil. Flash, les mecs te foutent deux gros némésis dès le début. Derrière, tu veux leur mettre quoi? Enfin, c'est toujours un peu c'est ce qu'avait réussi à faire Smallville. Smallville était clairement allé de plus en plus. Du coup, t'as eu Lex Luthor, mais derrière, ils avaient su utiliser les méchants à bon escient en montant de gamme. C'est un peu le problème de ces séries-là, c'est que Daredevil, t'avais le Kaïd, génial. Début de saison 2, Punisher, génial. Et derrière, t'avais la main qui était minable. Et là, tu fais, mais en fait, du coup, c'est au-delà du truc à rallonge. T'avais même un manque de tout passionnant parce qu'en face, ils avaient personne. Luke Cage, il avait personne en face. Jessica Jones, saison 2, n'avait personne en face. Enfin, le problème du super-héros, c'est que derrière, il lui faut un super méchant. Et quand le super méchant, en face, il est plus à la hauteur, mine de rien, tu perds aussi vachement de l'intérêt, parce que, le principe du super-héros, c'est qu'il est super. Si derrière, il y a rien de super, tu dis, bon, à part ces crises existentielles, finalement, on n'a rien à lui opposer. Et c'est un peu, d'ailleurs, ce que fait Arrow, et c'est pour ça que ça coûte de plus en plus. Et même Flash, hein, d'ailleurs, c'est que, résultat, quoi, on leur fout, mais des problèmes existentiels, mais à tour de bras, quoi, et à grosse couche. Et à la fin, ça devient ridicule, quoi.
D'accord. Donc le problème, c'est moins le classicisme de ces séries que soit l'aspect trop répétitif, soit cette espèce d'incapacité et peut-être d'incompréhension des créateurs des séries à avoir compris suffisamment le médium qu'ils adaptaient.
Ah ben tout à fait. Pour moi, il y a une compréhension totale. Au début, tu sens que en fait, ça se voit. Toutes les séries, que ce soit d'ailleurs Arrow, Netflix, CW, ce que tu veux, bizarrement, elles ont toutes changé de showrunner en cours de route.
Ouais,
non,
j'abuse
un peu.
Je pense qu'il
y a des exceptions, hein, à vérifier. Il y a peut-être des exceptions. Les auditeurs me diront si je me trompe. Mais de mémoire, elles ont toutes changé de showrunner à un moment et à un autre.
Sur l'ensemble, encore une fois, pour moi, en ce moment, Legends of Tomorrow, c'est vraiment la meilleure série de super-héros du moment parce que c'est drôle, c'est kitsch. Ils ont eu une excellente décision en rajoutant le personnage de Constantine. Ils ont fait des ajouts intelligents, et là où la première saison était kitsch, mais on sentait que c'était pas assumé, c'était très sympa, mais un petit peu ridicule. Au final, la saison 2 était beaucoup mieux, la saison 3, elle est juste formidable. Et là, j'ai juste hâte que la diffusion reprenne enfin, parce que je sais que c'est la, la petite bouffée de bonne humeur de fin de semaine.
D'accord.
Et c'est aussi ça un petit peu qu'on veut d'une série de super-héros. Ouais. C'est aussi un petit peu que ça nous fasse rêver.
Tu me vends du Punisher, au bout d'un moment, je veux du Punisher. Ouais, ouais. Enfin...
Pour moi, dans Ruby, c'était déjà la même problématique dès la saison 1. Hein. On a dû attendre 13 épisodes pour qu'à la fin, il ait les costumes rouges. C'était quand même.
Oui, non, mais sans... après, ça, c'est autre chose. Parce que Daredevil, vraiment, t'avais. En fait, là, encore une fois, les saisons 1 ne me gênent pas. Parce que
t'as l'évolution
du personnage et puis t'as la création du truc.
C'est ça.
Mais tu peux pas faire ça sur deux saisons. Jessica Jones qui chouine pendant deux saisons. Le pied de nez, c'est qu'à la fin de la saison 3 de Daredevil, ça revenait quasiment à l'état de fin de saison 1. Et là, tu fais, mais what the fuck? Enfin, mec, tu m'as fait deux saisons entre temps pour finalement revenir. Putain, les mecs, vous me faites 13 saisons sur Walking Dead, vous me faites 14 saisons sur Grey's Anatomy, vous en êtes à je ne sais combien de saisons d'NCIS et vous pouvez pas me dire que vous avez pas d'idée avec un genre qui est justement, mais idéal pour là où tu
disais tout à l'heure. Très riche pour la rénovation et la fraîcheur.
Pour la rénovation.
Ouais, absolument. Ouais.
T'es pas obligé de faire un épisode sur un Joker et le buter en fin d'épisode et de plus le revoir. Non,
oui, c'est ce qu'avait essayé de faire Gotham d'ailleurs, hein, ce que j'ai compris cas la première saison, bon, c'était ça. Hein.
Ouais, mais bon, Gotham,
mais voilà, il aurait fallu que ce soit bien fait. Voilà.
Oui, voilà, et là, Gotham avait d'autres problèmes.
Tout à fait.
Mais je pense que clairement, les mecs qui adaptent ça, en termes d'écriture, ils sont foireux. Enfin, je veux dire, tiens, encore une fois, je suis désolé, mais le méchant me bloque. Je reviens sur Arrow, mais pour moi, Arrow, je sais pas si vous regardez un peu sur Supernatural, mais je vais reprendre un peu sur ça me fait penser à Supernatural, dans le sens que Supernatural, il te faisait quoi? Il te mettait Lucifer en saison 4. Les mecs te mettaient le top du top en saison 4. Comment tu veux ensuite enchaîner avec ça?
Ouais, mais d'un autre côté, ils sont obligés de mettre des méchants qui sont un peu forts et intéressants dans les premières saisons. Sinon, personne va regarder, ça n'arrivera jamais à la saison 8.
Je suis tout à fait d'accord.
Donc moi, je te trouve un petit peu de mauvaise foi là-dessus, où tu dis, voilà, ils mettent des super méchants dès le début, et ensuite, ça perd en qualité, mais en même temps, si on n'avait pas eu Deathstroke dans Arrow en saison 1, ou en saison 2, je sais plus, est-ce que la série serait allée jusqu'à la saison 7 ou 8?
Oui, est-ce qu'elle aurait été plus regardée? Oui, c'est forcément des problématiques d'audience aussi, ça c'est sûr.
Je suis tout à fait d'accord avec toi, Laetitia, et très peu, mine de rien, enfin après, je les connais pas tous particulièrement, mais je sais qu'il, mine de rien, il y a très peu de super-héros qui ont aussi une galerie de super méchants aussi intéressante les uns que les autres. T'as Batman, t'as Superman, t'as Daredevil dans un certain sens. Alors que là, en se débarrassant des méchants en faisant un méchant par saison, déconnez pas non plus.
Supergirl a réussi autre part, en fait. C'est la raison pour laquelle c'est une des rares que je regarde encore. C'est parce que c'est, encore une fois, c'est là que t'as raison, Alan, c'est que c'est une question d'écriture. Pour moi, c'est le fait que les personnages, que je trouve en tout cas bien écrits, assez incarnés, assez humains quelque part, fait qu'en fait, moi, le fait qu'ils se battent contre un méchant, que ce soit Rain, machin, enfin,
c'est
pas ça qui m'intéresse au fond. Et là où Supergirl réussit,
t'as besoin d'un bon méchant, mais t'as besoin que derrière, le héros soit très très bien écrit. Encore une fois, hein,
voilà, honnêtement. C'est ça. Et pour moi, c'est ça l'intérêt de Supergirl, par exemple.
Les mecs, prenez exemple sur Batman des années 90. Oui, c'est un truc d'animation. Mais bordel,
c'est pas du tout un problème, en live,
c'est pas un truc infaisable.
Bien sûr, c'est tout à fait faisable.
Et bordel, ce n'était qu'une question d'écriture.
Voilà, enfin, absolument. Voilà. Bon, bah, showrunner, si vous pouvez nous entendre. Hein. Je pense qu'on va devoir rendre l'antenne, comme dirait l'autre, même si bon, on n'a pas vraiment d'antenne à rendre parce qu'on on est un peu tout seul hein, sur l'antenne, comme on dit. Merci Alan et Laetitia.
Merci à toi. Je suis désolé d'avoir un peu pris la parole, Laetitia.
Non, il y a pas de problème. Je pense que t'avais plus de choses à dire que moi sur le sujet.
Oui, tu étais très motivé.
J'étais énervé, j'avais
très énervé.
On a senti qu'il fallait que ça sorte.
Voilà, on a senti que t'avais hâte dans les préparations. Donc je rappelle qu'on peut vous retrouver Alan sur Cinewatch et Laetitia sur LR Media et moi évidemment sur spoilfilms.fr. Merci de nous suivre et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle émission.